Il y a du droit, Michel Burgon.
Bonjour. L'association de malfaiteurs est aussi vieille que la Bible. Souvenez-vous de la tour de Babel. Les hommes parlent une seule langue, ils s'unissent pour bâtir une tour qui touche le ciel. Une entente parfaite, mais tournée contre l'ordre divin. Dieu brouille leur langage, il disperse les bâtisseurs avant l'achèvement. Dans l'Empire romain, les premières communautés chrétiennes se réunissent en secret. Elles affirment une allégeance spirituelle supérieure à l'autorité publique. Un collegium illicitum, une association interdite. Leur simple réunion suffit à les condamner, non pour des crimes commis, mais pour une entente jugée subversive. Cette méfiance traverse les siècles. Sous l'Ancien Régime, les coalitions ouvrières, attroupements, conjurations, tous sont interdits, tous sont punis. La Révolution française, malgré la Déclaration des droits de l'homme, interdit les corporations par la loi Le Chapelier de 1791 au nom de l'unité nationale. Enfin, en 1810, le Code pénal napoléonien formalise l'association de malfaiteurs. Pour la première fois, le droit français consacre noir sur blanc l'idée que l'entente criminelle, même sans passage à l'acte, constitue en elle-même une infraction. C'est le côté obscur de la liberté d'association. Avec l'association de malfaiteurs, on ne juge pas ce qui a été fait, mais ce qui se prépare dans l'ombre. C'est devenu un outil central contre la délinquance financière. Dans les fraudes à la TVA, dites carrousel, des sociétés fictives simulent des échanges pour détourner des millions. Dans les affaires de blanchiment, des chaînes d'acteurs se mettent en place, collecteurs d'espèces, transporteurs, gérants de sociétés écrans, spécialistes des cryptoactifs. Et dans les escroqueries financières organisées, comme l'affaire Apollonia, elle permet de poursuivre l'ensemble du réseau, promoteurs, banquiers, notaires, conseillers. Pas besoin d'une preuve unique et irréfutable. Quelques appels téléphoniques, des virements suspects, des réunions discrètes, des sociétés écrans, pris isolément, chaque élément peut sembler banal. Mais ensemble, ils dessinent une entente criminelle. Et ici, la vérité n'est pas dans une pièce à conviction, mais dans le puzzle qu'on recompose. La loi donne aux juges une large liberté d'appréciation. Il peut relier entre eux des faits épars pour en déduire l'existence d'une association de malfaiteurs. Et pour la défense, la tâche est redoutable. Il lui faut démontrer une construction globale, montrer que chaque indice peut avoir une explication alternative licite. En pratique, le prévenu se retrouve parfois à devoir prouver son innocence, ce qui heurte la présomption d'innocence. Dans ces procès par indice, l'avocat ne combat donc pas une preuve, il combat une atmosphère. Mais attention, le juge n'est pas tout-puissant, il n'est pas l'enquêteur, il n'est pas un procureur bis, il ne peut pas inventer des charges. Il répond seulement aux réquisitions du procureur et aux arguments de la défense. Sa parole ne répond qu'à une autre parole, son raisonnement qu'à un autre raisonnement. Son initiative est réduite. Elle s'exerce surtout dans le choix du quantum de la peine, et encore, dans les limites fixées par la loi. On ne peut donc pas lui reprocher de faire un mauvais usage du texte. Cette souplesse, c'est le législateur qui l'a voulu. Le juge, lui, n'est que l'arbitre d'un duel, celui de l'accusation et de la défense. L'association de malfaiteurs est donc une arme à double tranchant, indispensable pour lutter contre la criminalité organisée, mais risquée, car elle peut condamner sur des indices trop larges. Elle révèle un choix de société, privilégier la prévention et l'efficacité, quitte à assouplir les exigences de la preuve. Et elle nous rappelle que le droit pénal est toujours un équilibre fragile entre sécurité et liberté, entre efficacité et justice. L'association de malfaiteurs, c'est la justice qui avance d'un pas, mais la liberté qui recule d'un demi-pas. À la semaine prochaine !